parole de Dieu en relisant le livre des Actes des Apôtres, comme quoi qu'il faut lire et relire. Hein. Quelqu'un le disait, la parole, il faut la lire, la relire, hein, c'est cette nourriture, c'est ce diamant à plusieurs facettes. Et je me suis arrêté sur un verset dans le chapitre 3. Alors certainement que vous vous rappelez du chapitre 3, hein, c'est la guérison du boiteux qui était au temple, appelé à la porte de la belle, et là il mendiait, et Pierre lui dira: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il a pris par la main droite, il s'est levé, il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il y a eu toute une bénédiction, là les hommes, ils n'avaient pas trop compris, ils attribuaient ça à Pierre et à Jean, et Pierre leur dira: mais ce n'est ni par notre puissance ni par notre piété que nous avons fait ce miracle, c'est par le nom de Jésus. Hein, quand on lit Actes 3, 12 et verset 12 et verset 16, et il leur parle du nom de Jésus. En effet, le miracle, j'ouvre une parenthèse, c'est pas encore mon sujet là. Hein. Ce n'est pas par notre puissance à nous qu'on peut faire quelque chose, ni par notre même, Pierre dit, mais même pas par notre piété. C'est par le nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur est le même, il ne change pas. Et ce qui m'a interpellé, c'est le verset premier. Dans Actes chapitre 3, verset 1er, il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure, et c'est là qu'il y a eu ce fameux miracle de ce boiteux. Et il y a une phrase: ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ensemble. Ensemble, c'est l'unité. Et j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu, ne serait-ce que dans l'évangile de Jean et au livre des Actes des Apôtres, on retrouve ce mot « ensemble », c'est-à-dire « uni ». C'est quand il y a l'unité, frères et sœurs. Vous savez, on ne peut pas aller par 36 chemins. Hein. S'il y a l'unité, Dieu bénit. Je pourrais résumer le message et redescendre et finir, et c'est fini. Hein. On va quand même s'arrêter sur quelques textes, mais quand même. Hein? C'est parce qu'ils étaient ensemble que le miracle s'est produit. C'est-à-dire qu'ils étaient unis dans la prière. Amen. Ensemble. Vous savez qu'on peut être, d'ailleurs on va le voir dans un passage, on peut être dans un même lieu sans être ensemble. C'est-à-dire sans être unis. Alors je réfléchissais tout au long de la semaine, parce que ce verset m'a vraiment parlé, et je me suis souvenu de ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 18. D'ailleurs, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes et l'évangile de Luc. Et dans le chapitre 18, au verset 9, il parle de ces deux hommes qui allaient à la prière. Vous savez, cette parabole du publicain et du pharisien. Ils étaient dans le même lieu, mais ils n'étaient pas ensemble. Et Jésus le souligne clairement. Un était pharisien, vous vous rappelez sa prière? Moi, je suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis pas comme ceux. D'ailleurs, il jugeait. Je priais ce matin, je dis: Seigneur, mais il faut qu'il n'y ait pas de jugement dans l'Église. Parce que le pharisien, il jugeait le publicain, il dira: moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Déjà, le gars, il avait les chevilles qui enflaient. Hein. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je fais ceci. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Moi, je donne la dîme. Je ne suis pas comme ce publicain. C'était l'heure de la prière aussi. Je ne suis pas comme ce publicain qui... Et je fais ceci, je fais cela. Vous savez, quand on entend moi je, aïe, 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 garde-nous, Seigneur. Hein. Et le publicain, et dans la réunion de prière aussi, il élève la voix, et qu'est-ce qu'il dit? Et vous savez que ce passage de la parabole du publicain et du pharisien, c'est une référence de la repentance. Le publicain, il se repent de ses fautes. Il se frappe la poitrine, il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Et il dit: sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Vous vous rappelez de ces textes? Et la conclusion, c'est que Jésus dira que cet homme est reparti dans sa maison justifié, car celui, vous connaissez ce passage, hein, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et vraiment, c'est vraiment en parallèle, parce que eux, ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils ont vu le miracle, ils étaient unis dans la prière. Et ces deux hommes que Jésus raconte, bon, c'est une parabole, mais quand même, c'était pour l'enseignement des contemporains de l'époque de Jésus, et c'est bon pour nous aussi. Ce qu'il faut, c'est non seulement être dans le même lieu, mais ce qu'il faut, c'est être ensemble. Amen. Et si on est ensemble, je vous garantis qu'on verra la bénédiction, que je la verrai avec vous. Amen. Je disais mercredi, moi je suis heureux de venir, parce que vous êtes mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucun souci. Hein. Amen. Et Dieu va bénir l'Église, hein, qu'il puisse nous trouver ensemble. Je m'inclus, hein, qu'il puisse nous trouver ensemble dans l'unité. Et là, Dieu va envoyer la bénédiction. Ne serait-ce que pour parler de Pierre et de Jean, on retrouve encore cette expression dans l'évangile de Jean. Regardez, au chapitre 20. Alors, le chapitre 20 de l'évangile de Jean, c'est quelques pages avant, c'est où il est question de la résurrection de Jésus. Je vais juste lire le verset 3 et 4, comme ça on le resitue. Pierre et l'autre disciple sortirent, donc ils ont annoncé que la pierre avait été roulée. Et au verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et lui, il est entré dans le sépulcre, etc. Et on sait pourquoi. Et donc là, ils ont couru ensemble. On les voit des fois. Hein. Je ne sais pas si vous allez faire un tour. Nous, on a une belle corniche à la Seyne-sur-Mer. Allez, le Chauvin, la plus belle corniche du Var. Non, c'est pas vrai. Mais et les gens, ils courent, et souvent ils courent ensemble. Et là, ils courent pour aller au sépulcre. Et il y a tout un enseignement là. Ils courent, et c'est Jean qui arrive le premier. Allez, je vais poser une colle. Pourquoi Jean est arrivé le premier? Eh oui, Jean, c'était le plus jeune des apôtres. C'était le plus jeune. D'ailleurs, quand on regarde, il y a un historien qui s'appelle Joseph, et Joseph, il raconte concernant Jean que c'est lui qui est mort le plus vieux. Il était centenaire, et mourir à centenaire à l'époque de Jésus, c'était important. On sait par où il est passé, Jean, jusqu'à la fin de sa vie, il dira « petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Il a eu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, c'était un bagne Patmos à l'époque, et ils l'ont mis là, ils n'ont pas pu le faire travailler, ensuite ils l'ont rapatrié en face, si vous avez la carte dans vos Bibles, vous voyez Éphèse, et selon l'historien Joseph, Jean serait mort à Éphèse. Et il ne pouvait plus marcher, Jean. Je le souligne de temps en temps, ça m'est venu à l'esprit ce matin en priant. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui a été jusqu'au bout dans l'église. Il ne pouvait plus marcher, on le transportait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'église. Moi, je l'ai vu une fois à Toulon. C'était à l'époque de, peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais peut-être que quelques-uns se rappellent, à l'époque de M. Petrakian, il y avait un homme qui venait sur un fauteuil, pas un fauteuil roulant, mais il était allongé. C'était le papa Daniel Cirelli, je ne sais pas si Pierre il s'en souvient, et jusqu'à la fin, et Jean, on le transportait, on le mettait à la sortie pour saluer comme on fait, et jusqu'à la fin il disait « petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Je vous raconte l'histoire hein, très courtement, et à un moment donné, à la fin d'un culte, il a senti qu'il allait partir. Et l'historien raconte qu'il a fait creuser sa tombe. C'est pas écrit, hein, mais l'historien raconte qu'il a fait creuser sa tombe et qu'ils l'ont descendu et qu'il a rendu l'esprit. Et là. Mais, donc, c'était le plus jeune. Il a couru. Quand on est plus jeune, on court plus vite que, quoique, des fois, ceux qui sont habitués courent vite aussi. Il est arrivé avant Pierre au sépulcre. Mais vous avez vu, il n'est pas rentré. Ça peut nous parler de peut-être d'un manque de maturité, peut-être, et tandis que Pierre, lui, il est rentré. Ou alors peut-être aussi un respect, je réfléchissais sur cette pensée, peut-être un respect par rapport à Pierre. Il n'est pas rentré, il a laissé Pierre rentrer. Et qu'on puisse être ensemble, courir ensemble, pour annoncer quoi? La résurrection. Amen. L'Église, elle a un service, un ministère, c'est d'être ensemble pour annoncer la résurrection. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient ensemble, ils ont couru ensemble, ils sont arrivés, ils ont constaté les bandes, etc., etc. Et ensuite, ils ont été proclamés la parole de Dieu. Amen. Et qu'on puisse être ensemble pour parler de la résurrection de Jésus. Et je pensais ce matin en priant à la maison à ces deux versets qui me sont venus à l'esprit, qu'on connaît par cœur. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 ou 3, quand Paul dit « Je n'ai que la pensée de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié ». Et dans 1 Corinthiens 1, 18, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Les Juifs, ils cherchent le miracle, les Grecs, la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, que Dieu nous donne toujours la force et la même vision de prêcher la croix jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est le seul moyen pour accéder au ciel. Donc là, ils étaient ensemble pour annoncer, pour constater la résurrection. Dans le même évangile, au chapitre 21, là, ça se passe pour la troisième fois, il va se présenter aux disciples. Chapitre 21, verset 2. Regardez ce qu'il est dit. Vous savez, c'est quand ils ont été à la pêche. Vous aimez la pêche? Qui c'est qui va à la pêche ici? Levez la main. Eh, moi aussi, hein. On se donnera les coins. Il est dit ceci: Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient encore unis là, dans ce texte. Et Pierre, lui, c'est un peu le fougueux, il dit, bon, mais moi, je pars à la pêche. Il aurait dû peut-être, je sais pas, au moins prier le Seigneur ou quoi. Non, il dit, je pars à la pêche, et il a pêché toute la nuit, il a rien pris. C'est terrible, hein, quand on passe toute la nuit et quand on prend rien. Hein. Et lui, et c'est là qu'il y a eu cette rencontre avec Jésus. Et le Seigneur va lui dire, jette le filet sur le côté droit. Là, il y a tout un enseignement aussi. Certainement, vous l'avez déjà entendu, ça, l'histoire du filet. Hein, il va jeter le filet sur le côté droit et il va prendre 153 gros poissons. Alors, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi 153? Et quand on regarde aussi un petit peu les commentaires, on se rend compte que dans le lac de Galilée, il y a 153 espèces de poissons. 153. Et ils vont tirer les filets, c'était des gros poissons, ils ont tiré les filets, et vous savez que, certainement vous l'avez déjà entendu, tirer le filet, ça nous parle de l'évangélisation, hein, de tirer le filet. Et pour tirer un filet, à l'époque, ils n'avaient pas les treuils et tout, ils tiraient à la main, et pour tirer le filet, il vaut mieux être ensemble. S'il y en a qu'un qui tire le filet, ça va être difficile, hein. Ça va être lourd. Et moi, je vous invite à être. D'ailleurs, c'est la mission de l'Église aussi, hein. Jésus dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et le filet, on le tire ensemble. Amen. C'est-à-dire, je crois que il y a eu un thème là, c'était le gagneur d'âmes, c'est ça? Gagner des âmes. C'est la mission de l'Église. Quand Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu, il a dit, allez, faites, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, etc., etc. Et le filet, on va le tirer ensemble. Amen. Donc il faut faire un peu de muscu, et puis après on va tirer le filet. Hein. Mais qui dit une grande quantité de poissons. Allez, 153 déjà, ce serait pas mal. Hein. Sans être gourmand, 153. 153 nouvelles conversions, 153 baptêmes. Amen. Ça va se savoir, hein? Non? Et que Dieu soit béni, il faut le croire. Hein? Dieu est au-dessus de tout, hein? Nous le rappelle constamment, hein, que Dieu soit béni. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont reconnu le Seigneur, etc. Il a dit que c'était pour la troisième fois qu'il se présentait. Qu'on puisse tirer aussi le filet ensemble. Acte chapitre 2. Toujours dans les actes, j'étais surpris de retrouver ce mot. Vous savez que quand Pierre va prendre la parole, juste après la Pentecôte, après on y reviendra, dans acte 2, oui. Acte 2, 46, il est dit ceci, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient tous ensemble. Là, ils en avaient des réunions. Hein. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est-à-dire qu'ils avaient des réunions tous les jours, on va dire pour simplifier, à l'église, au temple. Et ils rompaient le pain. Ils avaient même des réunions de maison en plus. Et ils étaient assidus. Il dit, tiens, ça m'a parlé aussi, être assidu. C'est important, ça, hein, qu'on soit tous assidus. Tous ensemble assidus. Amen. Alors, oui, mais c'est, bien sûr, rien n'empêche qu'on comprenne du temps de repos, mais quand l'Église se rassemble, qu'on soit là. Le maximum. Si on pouvait être là, moi je vous parle franchement, simplement, si on pouvait être autant à la réunion de prière que ce matin-là, il y aurait déjà un souffle, quelque chose, une action de Dieu. Amen. Hein? Et l'assiduité. Avant d'être pasteur, pendant quelques années, voire une bonne dizaine d'années, j'étais soudeur à l'arc. J'ai soudé au chantier naval, à l'arsenal, un petit peu à la Ciotat, mais ça, j'avais passé mon CAP, etc. Et puis, c'était mon métier jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle et que je rentre dans le service. Et il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être je suis un petit peu déconnecté, hein, mais il y avait la prime d'assiduité. Ça existe encore? Il y en a qui travaillent? Ouais. La prime d'assiduité. Et des fois, on était fatigués. Il y avait un peu, peut-être la fièvre, la fatigue. Mais parce qu'on savait. En tout cas, c'était comme ça que je fonctionnais, moi. Parce que je savais qu'au bout, j'avais, à la fin du mois, un plus par rapport à la prime d'assiduité. Eh bien, je faisais l'effort d'y aller, même fatigué, j'allais, je travaillais, je soudais, hein, et je savais qu'au bout, à la fin du mois, il y avait la prime d'assiduité. Oui, frère. Ah oui, oui, ça c'est autre chose, hein. Mais en tout cas, il y avait cette prime là, et on savait que bon, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on faisait tous nos efforts, ils étaient tous les jours ensemble assidus au temple. Alors la prime, on ne l'aura pas sur... Je vais peut-être vous décevoir, hein, mais la prime, on ne l'aura pas sur la terre. On l'aura dans le ciel. On travaille pour le ciel, on travaille pour la vie éternelle. Des fois, ça m'échappe, moi. Hein. La vie éternelle. La vie éternelle, dira Jésus, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Mais quand même, on est appelé à vivre éternellement, hein, dans la gloire, dans la félicité, dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Pour l'éternité. Et cette prime, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, tiens, je crois que c'est dans Matthieu 25, avec l'histoire des talents. Vous vous rappelez l'histoire des talents? Celui qui a eu 5 talents, 2 talents et 1 talent. Celui qui a eu 5 talents, il les a fait fructifier. Et le Seigneur dira, entre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. 2 talents, pareil, il a fait fructifier. 4 talents. Et puis celui qui avait rien fait, hein, voilà. Au bout, il y a la récompense. Amen. Quand on sera avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, des fois, je l'entends dans les églises. Je l'ai entendu dans mon ministère. Oui, mais moi, c'est, pasteur, je me contenterai d'un strapontin. Pour l'éternité. Vous avez déjà voyagé sur un strapontin? C'est dur, hein? Non, moi je veux quand même être bien, hein, pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Qu'on puisse aussi être assidus, être ensemble à l'Église. Amen. Quand il y a des efforts, quand il y a les réunions, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup de réunions, hein? Bon, je ne vais pas vous raconter les réunions qu'on faisait quand je suis rentré dans le ministère, ça y allait, là. Hein? Oh là là, et ça a diminué comme une peau de chagrin, là. Acte chapitre 2, toujours, verset 1er. Là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Je n'ai pas regardé l'heure. Acte chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça me parle, hein. Tout à coup, il vient du ciel, on sait ce qui s'est passé. Ils ont tous ceux qui étaient ensemble dans le même lieu. Donc, il est question de l'unité. Ils ont tous, et moi je veux insister, hein, ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils se sont mis, des langues, certainement, c'était visuel, des langues semblables à des langues de feu, sont descendues et se sont mis, ils ne savaient pas ce que c'était, ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. J'aime le dire, la norme dans l'Église, mes frères et mes sœurs, c'est d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Tous, ce n'est pas une élite, c'est pas quelques-uns, c'est tous. La promesse, quand on regarde le message de Pierre, la promesse, elle est pour tous. Je sais pas si tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit, mais si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, la promesse, elle est pour vous, même ce matin. Amen. Hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, eh bien, laissez jaillir, hein, ces quelques mots, ces quelques syllabes, ça fait rien. Lui, le Seigneur, il connaît. Amen. Et c'est Paul qui dit qu'il n'y a aucune langue qui n'est pas connue du Seigneur. Alors, il y a les langues, je ne vais pas vous faire un cours sur le baptême du Saint-Esprit, mais il y a les langues célestes et les langues terrestres. 1 Corinthiens 13, 1, quand Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien qui résonne. Mais la langue des anges, c'est aussi quand on a un baptême du Saint-Esprit qui n'est pas un langage terrestre. N'hésitez pas, frères et sœurs, que tous ensemble, on vive cette vie de l'Esprit, cette dimension dans l'Esprit. Gloire à Dieu. L'Esprit, il nous travaille. Hein. Amen. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais l'Esprit nous travaille. Il faut que le Saint-Esprit nous travaille. La Bible dit, après on le sait, c'est tout des versets qu'on connaît, mais il faut qu'on les vive. Quand la Bible dit que Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il dira dans 1 Corinthiens 6, je crois, 19, nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne nous appartenons plus parce que nous appartenons au Seigneur. Amen. Il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Et on sait très bien quand ça va et quand ça va moins bien. C'est vrai ou pas? On le sait, il ne faut pas se voiler la face. Mais là, en tout cas, tous ensemble dans la vie de l'Esprit. Amen. Seigneur, renouvelle-moi. On l'a entendu dans les prières. Hein. Je crois qu'il faut écouter. Seigneur, viens nous renouveler, viens nous sanctifier, viens nous purifier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je vous apprends rien. On vit la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu la dispensation du Père dans la loi, la dispensation du Fils quand il était sur la terre. Et là, on vit la dispensation du Saint-Esprit. Saint-Esprit est au milieu de nous. On n'est pas là que pour venir chanter et écouter la parole. On est là parce qu'on est convaincu que Jésus est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Amen. Hein, qu'on puisse vivre ensemble cette dimension de l'Esprit. Chapitre 5 encore, on est encore dans les actes. Quand on épluche comme ça, regardez, il est encore question. Même pas autant pour moi. Chapitre 4, on verra. Ça va, vous n'êtes pas pressé? Bon, il est qu'à 11h. Jusqu'à quelle heure? Je ne me rappelle plus, là, depuis les dimanches. 11h30? Oula, ça va. Hein. On a le temps, alors. Chapitre 4, pardon, versets 23 à 31. Là aussi, on retrouve cette expression et on va regarder pourquoi ils se sont mis. Regardez, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ça aussi, cette expression, peut-être que vous l'avez entendue déjà par les pasteurs. Ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et là, on a une prière. Et vous avez la prière de l'Église, de ceux qui étaient rassemblés. Ils se sont mis tous, des fois on l'entend, hein. Souvent les pasteurs ils disent on va louer à tous ensemble le Seigneur. Et c'est biblique, hein, parce que là, ils l'ont fait tous ensemble. On a même la prière et souvent on retrouve cette prière. On la retrouve dans la bouche des frères, des sœurs et même des serviteurs de Dieu. Il dit, juste je vous donne la première phrase, dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, combien de fois on l'a entendu ça? Merci Seigneur parce que tu es le créateur de toutes choses. Et vous avez toute la prière et à la fin, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient tous ensemble, verset 31, quand ils eurent prié, vous avez la fin de la prière là, verset 30, verset 31, quand ils eurent prié, il rapporte ça à Luc, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous visite, le lieu a tremblé, dites. Amen. Ils étaient tous ensemble, ils ont élevé la voix. Alors, il est dit qu'ils ont été relâchés, ils ont été en garde à vue, Ils ont été en garde à vue une nuit, quand on lit le chapitre 4, j'emploie les termes de maintenant, mais ils ont été en garde à vue une nuit. Ensuite, ils ont été relâchés. Je résume, ils ont été relâchés et les sacrificateurs, ils leur ont interdit de parler. Et Pierre dira, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il n'est pas question de se taire. Et à cause de cela, parce que la foule était pour les apôtres, ils ont relâché de cette garde à vue. Une nuit après, ils l'ont relâché. Et c'est là qu'ils ont été vers les leurs. Et je crois que notre réflexe, frères et sœurs, c'est d'aller vers notre famille spirituelle, vers les leurs. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de se confier à quelqu'un qui n'a pas la foi. Souvent, on partage un élément, quelque chose ou une expérience bonne ou mauvaise. On la partage avec un frère. Et leur réflexe, l'unité, c'est d'aller vers les leurs. Et ils ont ensemble élevé la voix. Et ils ont ensemble été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont ensemble annoncé la parole de Dieu avec assurance. Amen. Qu'on puisse aussi avoir ce réflexe, aller vers mon frère, aller vers ma sœur, être ensemble, élever la voix ensemble. Peut-être qu'on le fera tout à l'heure, si vous voulez. On le fera, on prendra un chant aussi approprié, et puis on l'élèvera pour clôturer ces moments du culte. Gloire à Dieu. Chapitre 5, ça va? Je ne vous fatigue pas trop? Chapitre 5, là aussi, il est question d'être ensemble. Il y a eu Ananias et Saphira, enfin, je passe, c'est pas là mon propos. Verset 12, chapitre 5, verset 12, il est dit ceci, acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges, se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 13, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Amen. Et là, il y a quand même une grande leçon à retirer, c'est que si on est ensemble, le nombre va augmenter. Si on est unis, le nombre augmente. Si on n'est pas ensemble, frères et sœurs, le nombre diminue. C'est pas compliqué. Pour que ça augmente, il faut être ensemble. Ils étaient ensemble et il y avait la bénédiction qui était là. Et le texte dit que le nombre de femmes et d'hommes augmentait. Amen. Et je crois que c'est aussi le désir et la mission de l'Église, c'est de voir le nombre augmenter. Pas de faire du nombre, parce que faire du nombre, c'est facile. Faites n'importe quoi, on fait n'importe quoi dans l'Église et on fait du nombre. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est de faire des hommes et des femmes nés de nouveau, convertis, engagés, remplis du Saint-Esprit. Je vous parle simplement, mais c'est comme ça. L'Église, c'est ça, ce n'est pas autre chose. Hein. Ce n'est pas de faire du nombre. Après, avec le nombre, bon, du nombre comme ça, je disais, c'est facile. Mais là, donc, il y a eu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Et le Seigneur a ajouté, la Bible dit dans les textes qui précèdent que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui... Et alors, la bénédiction, le nombre n'exclut pas, et là je veux le souligner, on va s'y arrêter quand même quelques instants, le nombre n'exclut pas l'épreuve et n'exclut pas la difficulté. Dans le même texte, il est dit que le nombre a augmenté, et ensuite, il y a une réaction. L'ennemi de nos âmes, je crois qu'il faut le dénoncer, hein, l'ennemi de nos âmes n'aime pas quand l'Église va de l'avant, quand l'Église est ensemble, quand les âmes sont rajoutées à l'Église. L'ennemi n'aime pas, il fera tout, il se servira de tous les moyens pour saper notre foi, pour saper notre communion les uns envers les autres. Ça, c'est sûr. Et je relisais donc le chapitre, et ça paraît, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre. Et au verset 17, il est dit ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Et ça leur a pas plu, ça. Il y en a un à qui ça ne plaît pas. Hein. Ils se sont levés contre contre le nombre augmenté. Il y avait un souffle de Dieu. Dans le chapitre 4, il est question de, dans le chapitre 2, il est question de 3000. Dans le chapitre 4, il est question de 5000. Et là, il est question au chapitre 5 d'un grand nombre encore qui augmente. Mais ça ne plaît pas à tout le monde d'être ensemble et de gagner des âmes. Ça ne plaît pas à tout le monde. L'ennemi va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Les Sadducéens, alors quand on étudie un petit peu, vous connaissez l'histoire des Sadducéens? Les Sadducéens, dans la Bible, ils ne croyaient pas entre autres à la résurrection. Ils ne croyaient pas entre autres à la résurrection. D'ailleurs, ils vont poser des questions à Jésus, etc. Enfin, je passe là-dessus. Mais ce sont eux qui se sont levés. C'était un parti qui était contre la nouvelle doctrine qu'ils appelaient, hein, celle de Jésus. Ils ont été remplis de jalousie. Terrible, ça, que Dieu nous garde. Parce que ça, c'est pas être ensemble. Hein. S'il y a de la jalousie, il y a plus d'unité. Et là, il est question de la jalousie. J'ai relevé deux versets dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la jalousie. Dans le livre des Proverbes, bien sûr, j'aime lire. Je ne sais pas si vous aimez lire le livre des Proverbes. Je trouve qu'il est toujours d'actualité. Hein, quand on lit le livre des Proverbes, on dirait qu'il a été écrit il y a la semaine dernière. Hein, Proverbe 27:4, il est dit ceci. Je me suis souvenu de ce passage quand je préparais. Regardez ce que dit Salomon. La fureur est cruelle. C'est terrible, la fureur. Il dit que c'est cruel. La colère, impétueuse. Mais il attribue la jalousie au-dessus de la fureur et au-dessus de la colère. Mais il dit ceci. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera? Il dira La fureur est cruelle, la colère est impétueuse, mais la jalousie, c'est terrible. Et j'ai relevé un verset aussi, j'avais complètement oublié. En plus, ce livre des Cantiques, c'est pas trop mon livre. Il dit ceci, 8, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le sauter, le livre. Hein, c'est comme ça, il y a des livres qui nous inspirent plus que d'autres. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Et regardez ce qu'il dit, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Il dit que la jalousie, elle est inflexible. Et là, alors il y a eu la bénédiction, ils étaient ensemble, le nombre a augmenté, mais seulement la jalousie là, les a amenés dans les problèmes et dans les difficultés. Que Dieu nous garde. Et avec cette pensée de la difficulté, on retrouve aussi ce mot « ensemble » dans la difficulté. Il y en a qui vont se liguer ensemble pour contrer. Vous vous rendez compte? Pour contrer l'Église. J'avais relevé la parabole de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 30. Vous savez, c'est cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous vous rappelez? Ensuite, il donne l'explication. Matthieu 13, 30, il dit ceci. Laissez croître ensemble. Parce que, alors, le paysan est sorti, il a semé du bon grain pendant la nuit. La Bible dit, c'est Jésus qui raconte, l'ennemi est venu, il a semé de l'ivraie, et l'ivraie a poussé. Je ne me suis pas encore bien documenté, mais il paraît que ça ressemble énormément, je ne sais pas, l'ivraie au blé, et les moissonneurs, ils ont dit, on va arracher l'ivraie. Et vous savez ce que Jésus dira? Non, on n'arrachez pas, au temps de la moisson, il y aura une séparation, il y aura quelque chose qui va se passer. Et il est dit ceci, il laissait croître ensemble. Alors c'est vrai que des fois on aurait tendance, et moi le premier j'ai un petit peu le caractère comme ça, à prendre l'ivraie, l'enlever quoi, du bon grain. Mais Dieu dit non, laisse pousser, ça m'appartient. Il y a des choses que le Seigneur lui il va savoir séparer, il va savoir régler. Et des fois on veut régler des choses et humainement et excusez-moi l'expression, on se plante, et moi ça m'est arrivé hein, dans le ministère, on veut régler, et puis non. Il y a des moments où il faut régler, des moments où il faut laisser le Seigneur, Et là, il dira, laissez pousser ensemble, livrer. Alors, certainement, vous l'avez déjà entendu, ça c'est un propos qu'on a déjà entendu, le mot livrer en grec signifie zizania. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, souvent. Je crois que le premier mot, honnêtement, là, ça ne sortira pas d'ici, allez. Le premier mot que j'ai appris en grec, ça a été ça. Ouais, zizania. Ça a donné zizanie. Ça a donné zizanie. Et que Dieu nous garde de la zizanie. Le diable, lui, il va semer de livrer même au milieu du peuple de Dieu. Et le Seigneur dira, mais non, au temps de la moisson, il va y avoir une... Dois-je le dire? Et pourtant, il va y avoir une sélection. Il va y avoir le bon grain et il va y avoir livré. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Arrachez d'abord livré, dira Jésus, et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Je crois que l'Église doit amasser dans les greniers du ciel, dans les greniers célestes. Hein, que Dieu soit béni. Je vais relever ce verset dans Luc 23, 18. Et là aussi, on voit qu'il y a des ennemis. Luc 23, 18, c'est presque la fin de l'évangile de Luc. Verset 18, je le lis pour vous. Il est dit ceci. Ils s'écrièrent tous ensemble, ça c'est concernant Jésus quand il est arrêté, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Vous vous rappelez, Ponce Pilate, il dit qui vous voulez que je vous relâche, crucifie Jésus, crucifie. Et là ils se sont mis ensemble, ils se sont ligués hein, pour dire à Ponce Pilate, ils ont préféré relâcher un criminel, hein, un criminel, que de relâcher le Seigneur. Mais bien sûr, nous on connaît l'histoire et on sait qu'il y avait tout un plan derrière de bénédiction. Donc les adversaires aussi s'unissent ensemble pour nous faire du mal. Je termine mon message avec cette parole concernant le retour de Jésus. Je me disais, peut-être j'en parlerai à l'occasion d'un autre dimanche, certainement, oui. Je faisais un petit peu le point, j'ai dit, Seigneur, on parle beaucoup de beaucoup de ta parole, mais je sais pas, peut-être qu'ici on en parle beaucoup, mais on parle très peu du retour de Jésus. Je sais pas. Et enfin, c'est le constat que je fais, personnel, peut-être que je me trompe, mais c'est important ça, quand on voit tous les éléments qui se dessine, quand on voit tout ce qui se passe sur Israël, en Europe, etc., on voit bien qu'il manque très peu de pièces, hein, très peu de pièces au puzzle, et Jésus est plus qu'à la porte. Hein. C'est quelqu'un qui disait, à force de le dire, il va venir. Hein. À force de dire que le Seigneur vient, il va venir. Et là, on a un verset aussi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 35, il est dit ceci, je le résume, de deux femmes qui seront ensemble, qui vont moudre le grain, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est Luc 17, 35. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce que je disais tout à l'heure avec l'ivraie, il y aura une sélection qui se fera. Quand on lit dans Matthieu 25 aussi, il séparera les uns avec les autres, comme le berger va séparer les brebis des boucs, les boucs ils iront à gauche, les brebis elles iront à droite, et il dira venez vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession, etc., etc. Et il y aura, moi je veux faire partie des brebis, je suis d'abord une brebis, avant d'être un pasteur je suis un chrétien à la retraite, mais un chrétien, et je veux faire partie des brebis. Hein. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession, gloire à Dieu. Mais il y aura l'enlèvement de l'Église, et amen. Je pensais encore à ce texte où on voit que nous serons ensemble. J'avais relevé 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Paul dit ceci, on se sert souvent de ce passage dans les inhumations, dans les enterrements. Il est dit ceci, tous ensemble, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et Paul dit, consolez-vous, tous ensemble. Amen. L'enlèvement, il se fera en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Amen. Même si on est appareillé, on entendra, vous inquiétez pas. Même si on est aveugle, on verra le miracle qui va se produire. Le Seigneur viendra nous chercher, on sera tous ensemble. Amen. Et là, entre nous, là, il n'y aura plus de dénomination. Hein. Il n'y aura que des hommes et des femmes nés de nouveau dans le Seigneur, à bénir le Seigneur pour l'éternité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Puis je termine avec ce verset. Dans Éphésiens, j'ai pris un dernier verset, Éphésiens 2:6, Paul dit ceci: c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Ensuite il dit, verset 6, il nous a ressuscités, comment ? Ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors même si vous ne retenez pas tout, vous allez retenir au moins un mot. C'est le mot ensemble, hein, unis, amen, ensemble, unis, que Dieu soit béni. Je voulais prendre le chant.